aujourd'hui. Et nous voilà dans notre deuxième partie qui va nous emmener jusqu'à 18h en compagnie de Raymond Hiss. Raymond, bonjour. C'est la seconde fois que je vous reçois avec plaisir dans Marque Page. Et là, donc, votre livre, Les roses ont menti, n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec les ouvrages dont on avait parlé dans une première émission, puisqu'il s'agit en fait d'une réédition de ce qu'on pourrait appeler vos souvenirs d'enfance. Hein, et tout de suite, un petit mot. Je précise que vous êtes né en 1945 et que... Quand on lit ce que vous racontez, vous êtes une espèce de mémoire d'une histoire de cette France qu'on appelait la France de l'intérieur et qui est complètement oubliée aujourd'hui. Mmh. Là, vous êtes au bout d'un cycle, finalement.
Oui, c'est-à-dire que mon enfance a été marquée par... ça se passe à Metz, hein, en gros, dans l'agglomération Messine, avec une échappée quand même dans le Lot-et-Garonne, mais pour des raisons qui sont liées à l'histoire aussi, d'une certaine manière. Et effectivement, j'ai été non pas témoin parce que j'étais trop petit, mais enfin de récits qui nous plongeaient dans un passé assez proche ou parfois assez lointain, qui remontait jusqu'au début du siècle et qui retraçait aussi, qui était les conséquences de l'histoire un peu mouvementée de l'Alsace-Moselle au XXe siècle, quoi.
Mais vous avez dans votre famille, en ligne directe, des gens qui parlaient français, puis des gens qui ne connaissaient pas le français.
Oui, mon arrière-grand-mère, qui est née en 1870, a changé 4 fois de nationalité dans son existence. Bon, ça ne l'a pas empêché de mourir à 89 ans, disons en pleine santé. Mais effectivement, les gens étaient ballottés de l'un à l'autre. Et selon la langue qu'ils parlaient, ils étaient du bon côté et du mauvais côté, selon les circonstances dans lesquelles l'histoire les avait précipités, quoi. Ce qui crée des situations quand même très particulières, quoi.
Oui, ça devait même entraîner des incompréhensions.
Ah oui, parce qu'il y avait toute une partie de ma famille avec qui je ne pouvais pas parler, y compris ma grand-mère paternelle, par exemple, à qui je n'ai jamais pu parler, quoi. Ça crée quand même des liens assez particuliers, quoi.
Oui, voire des dissensions ?
Non, pas forcément, mais peut-être quand on est gosse, une certaine incompréhension, peut-être un certain mépris qu'on regrette par la suite, quoi.
Ah, vous allez carrément au terme de mépris.
Ah oui, bien sûr, oui. Mais l'image dans les années 50, bon, ça a heureusement changé depuis, mais l'image de l'Allemagne était forcément dévalorisée et dévalorisante. Donc tout ce qui s'y rattachait, y compris la langue, était quand même était dévalorisé, quoi. Bon, il faut un changement de génération pour que ces choses-là disparaissent. Heureusement, ça a disparu aujourd'hui. Et on le voit dans la façon dont dans la ville de Metz actuellement est mise en valeur, y compris les quartiers construits à l'époque allemande, quoi.
Qu'est-ce qui vous a poussé un jour à vous replonger dans ces souvenirs et puis à les énumérer ?
C'est-à-dire que c'est comme, ce n'est pas très différent des autres ouvrages ou des autres romans, c'est-à-dire qu'à un certain moment, j'ai des images qui se forment à mémoire et surtout des phrases ou des paragraphes entiers qui viennent se composer en mémoire et j'éprouve les besoins de les écrire. Après, le problème, c'est de les mettre
en ordre.
De les mettre en ordre.
Ou dans un certain
et
ordre.
Et puis surtout, j'ai hésité longtemps à écrire ces souvenirs. Et parce que bon, les mémoires d'enfance, c'est un exercice assez dangereux. On risque très facilement de tomber dans les stéréotypes, dans la mièvrerie, dans l'auto-apitoiement, etc. Donc j'ai voulu éviter absolument tout ça. Je m'étais dit, par exemple, surtout, il ne faut pas faire de pagnole. Non pas que ce soit bon, ce soit mauvais, mais ça a déjà été fait, donc il faut éviter de reproduire ce que les autres ont déjà fait, quoi.
C'était d'autant plus difficile, oui. Puis c'est d'autant plus difficile que vous aviez quand même un grand-père qui était un snit.
Oui, bien sûr.
Ce Metz ou ces faubourgs de Metz que vous décrivez existent encore aujourd'hui où l'urbanisme galopant a effacé une partie de...
Ce secteur-là, non, il existe encore. C'est la physionomie de la population qui a beaucoup changé, la condition sociologique qui a beaucoup changé. Bon, il n'y a plus personne qui parle allemand, par exemple. Ces générations-là ont disparu. Ce qui constituait l'ossature économique du quartier, les ateliers des chemins de fer ont disparu aussi, y compris les logements des ouvriers des chemins de fer. Donc Mais extérieurement, non, ça n'a pas changé, quoi. Le terrain d'aviation aussi vient de disparaître. Enfin, il y a tout un aspect... L'aspect militaire aussi a complètement disparu ou est en train de disparaître, quoi.
Les, ce qu'on appelle les anciens, donc à Metz, qui vivent à Metz ou qui vivent à Borny ou qui vivent à Montigny, eux là doivent s'y retrouver parfaitement parce que c'était aussi leur enfance, tout ce secteur-là.
Ah oui, bien sûr, oui. Les gens d'un certain âge, et puis je pense que l'évocation des lieux, etc., peut rappeler des souvenirs récurrents chez des gens qui en ont entendu parler, etc. Quoi. Donc la référence très précise à des commerçants, etc., je pense que ça évoque encore pas mal de souvenirs à pas mal de gens, quoi.
Vous me disiez, avant qu'on rentre en studio, qu'en fait, cet ouvrage, Les Roses ont menti, c'est aux éditions des Parages, était une réédition.
Oui, c'est-à-dire que la première édition est parue en 1993 aux éditions Pierron à Sarreguemines, éditions qui ont disparu depuis. Et maintenant, les souvenirs que j'évoque ici ont maintenant quand même 50 ans à 60 ans, quoi. Donc ça commence à prendre une patine sérieusement historique. Et donc les Parages ont accepté de le rééditer vu le délai qui s'était écoulé depuis la première édition, quoi.
Quand on lit ces souvenirs d'enfance, alors automatiquement, on fait référence à ses propres souvenirs d'enfance de lecteur. Et moi, à titre personnel, je me suis dit, mais je serais incapable de rédiger un ouvrage de plus de 200 pages sur mes souvenirs d'enfance. Comment vous avez pu retrouver ces souvenirs, tout ce que vous avez connu quand vous étiez petit?
Alors, il y a des souvenirs personnels donc, qui sont forcément postérieurs à 1945. Et il y a des souvenirs indirects qui sont les souvenirs des parents, des grands-parents. Et qui, à force de répéter les mêmes histoires, ont fini par les assimiler. Et ça fait partie de l'histoire familiale, quoi. Avec toutes les inexactitudes qu'il peut y avoir quand on écoute les parents raconter leur vie. On emmagasine des souvenirs, on emmagasine des événements, et quelquefois on fait un petit mélange dans sa tête et on tombe, raconte des choses qui sont fausses. Par exemple, l'anecdote qu'on évoquait tout à l'heure, et j'ai évoqué dans Les Roses ont menti l'histoire d'un cousin de mon père que j'ai fait mourir dans la Wehrmacht sur le front russe en 1943. Quand je l'ai eu au téléphone après la parution du bouquin, en fait, il s'était engagé les forces françaises libres, ce qui est légèrement différent, mais j'avais confondu deux histoires. Donc, je n'ai absolument jamais visé à l'exactitude, je n'ai jamais vérifié mes informations volontairement de façon à retranscrire la façon dont j'avais vécu certains souvenirs ou certains événements, quoi.
J'imagine que quand le livre est sorti, vos premiers lecteurs ont été la famille.
Oui, la famille, il n'y a pas eu que la famille, heureusement.
Les gens du quartier aussi.
Les gens du quartier aussi, oui. Alors ça a fait ressurgir des revenants, des gens que je pensais qui n'existaient plus, qui se sont découverts dans le bouquin. Il en restait encore pas mal, des gens que j'avais complètement perdu de vue, des gosses, des petits voisins, etc., des petites voisines qui se sont retrouvés dans l'ouvrage, quoi. Oui. Ça reste très ancré localement. J'avais aussi l'option au départ, j'y réfléchis beaucoup avant de commencer à écrire ça. Est-ce que je change les noms? Est-ce que je change, pour éviter éventuellement des frictions ou des problèmes? Et je suis dit non, parce que j'écris bien des souvenirs personnels, j'écris pas un roman, c'est pas la même chose. Donc si je change les noms des lieux et le nom des personnes, ça va complètement faire dévier la trajectoire. Donc je m'en suis tenu strictement à des choses existantes. J'avais une documentation aussi, hein. Je travaillais beaucoup aussi sur des photos de famille. J'ai eu la chance d'avoir un arrière-grand-père qui avait un appareil photo au début du XXe siècle. Donc j'ai des photos de famille en abondance qui remontent jusqu'aux années 1880. Et je travaille là-dessus aussi, puisque j'ai des plongées dans le passé à travers des souvenirs de famille au début du siècle, qui remontent au début du siècle.
Oui, ça, on le comprend dans le livre quand vous dites, là, je revois telle photo et là, fille à droite, c'est telle personne. Et...
Oui, bien sûr. Oui, c'est de la documentation familiale, quoi. Mais le reste, j'avais... je dois avoir une bonne mémoire, sans doute, où il y a des petits événements qui m'ont... C'est pas forcément des grands événements. Ce que je disais, je n'ai pas eu une enfance... Je disais tout à l'heure que pour être sûr d'avoir un succès et d'écrire des souvenirs d'enfance qui cartonnent, il faut de préférence avoir une enfance malheureuse et tragique. Moi, ce n'était pas du tout le cas.
C'est une enfance tranquille.
C'est une enfance tranquille. Donc, il fallait trouver la matière dans des petites choses, mais qui au niveau de l'enfant que j'étais, ont eu leur importance à l'époque et qui m'ont marqué au point que je les ai retenus, quoi.
Eh bien, En même temps, c'est ça qui est aussi sympa dans ces souvenirs que vous évoquez, c'est que ça se situe toujours quand même sur une trame. Quelquefois, c'est de l'actualité, puis quelquefois, c'est une réalité. Là, quand vous parlez des Américains dans votre quartier qui sont là avec leurs grosses bagnoles. Bon, tout le monde a connu, bon, à Toul, il y avait les gens les bosseuses américains dans les années 50. Mmh. Oui, là, ça correspond à du vécu dans...
Ah oui, c'était, la présence des Américains était très prégnante. Bon, c'était le quartier de Montigny dont je parle était un quartier de caserne. Il y avait plusieurs casernes américaines et la présence américaine était prégnante dans les commerces, dans la rue, etc. Bien qu'il y ait eu très peu de contact avec ces gens-là, quoi. C'était deux mondes qui s'ignoraient un petit peu, quoi.
Sauf quand ils organisaient, si on peut dire en termes d'aujourd'hui, des journées portes ouvertes, je crois.
C'est une anecdote aussi qui m'a marqué. Effectivement, les casernes américaines organisaient des journées portes ouvertes et tout était gratuit. Il y avait de la pâtisserie, de la boisson, etc.
Et là, vous avez eu un rappel à l'ordre, vous ?
Oui. Non, moi, je n'y allais pas. Mes parents ne m'auraient jamais laissé aller. Moi, j'y voyais pas malice, mais j'avais beaucoup de copains qui y allaient, qui revenaient avec des cabas pleins de pâtisserie, etc. Et notre instituteur nous a rappelé à l'ordre et nous a dit « N'y allez pas, on n'est pas un peuple de mendiants, quoi. » Et ça m'a marqué et j'ai... Bon, il suffit d'un mot quelquefois pour comprendre, hein, sans grandes explications, sans justification. Et ces choses-là m'est restée, c'est une anecdote qui m'est restée, quoi.
Ces instits, ils sont très présents dans vos souvenirs.
Ils le sont parce que mon grand-père l'était déjà. Il est parti en retraite je suis rentré dans son école, pratiquement. Et puis ensuite, j'ai de bons souvenirs de cette époque à travers quelques anecdotes. Alors là aussi, sur l'école, j'ai voulu éviter les stéréotypes. Vous ne trouverez pas d'histoire d'encre bleuie par de l'encre violette, etc. Bon, il devait y en avoir, mais enfin, on pouvait se laver les mains. J'ai essayé d'éviter ce genre de souvenirs stéréotypés. Donc, c'est des souvenirs très, très particuliers, bien liés à un contexte et qu'on ne trouve pas ailleurs dans d'autres récits d'enfance, quoi. Notamment celui que j'ai évoqué tout à l'heure à propos des Américains.
Oui, mais en même temps, là, vous parlez de l'école comme ça, mais on vous découvre en train de raser les murs à l'école.
Disons que j'étais pas un foudre de guerre. J'étais un petit gros, quoi, à l'époque. Alors, les petits gros avec des lunettes, en plus.
Vous vous dites même que sur une photo de classe, il y en avait deux qui avaient des lunettes.
les lunettes, à l'époque, c'était quasiment des prothèses. Hein. C'était presque un handicap, quoi. Il y a très peu de gens qui avaient des lunettes. Donc, ça protégeait d'une certaine manière, mais enfin, ça, en même temps, ça marquait quand même, quoi. Donc, j'ai quelques mauvais souvenirs à ce sujet dans l'école, quoi.
Quand on vous voit là, on a du mal à vous imaginer en petit gros.
Oui, j'ai vieilli malheureusement. Mais...
Oui, il y a des choses qui sont marrantes dans ces souvenirs-là. Il y a aussi les copains d'école qui vous reprochent que votre grand-père a été instituteur.
Oui, c'est-à-dire que mon grand-père a eu sa formation avant 1914, donc dans l'école allemande qui était marquée assez par l'éducation prussienne, qui était faite à coups de règles sur les doigts et de coups de pied aux choses. Il a, malgré un stage de rééducation en 1924 à Paris, on ne se refait pas, et j'ai l'impression qu'il avait continué pendant longtemps. Et les anciens élèves que je connaissais par la suite, devenus adultes, avaient surtout, lui, le souvenir de coups de règle sur les doigts, de taloches et de tirages d'oreilles, quoi.
Il était dur comme ça ?
Pas avec moi, quoi, mais...
Ce qu'il y a aussi de touchant... Dans ce que vous racontez, bon alors là, vous avez un peu grandi, puis il y a la première bicyclette, et puis il y a les premières envolées, finalement, au dehors de la rue.
Oui, j'ai construit aussi l'histoire de manière forcée. Pas uniquement chronologique, mais par extension géographique, c'est-à-dire on passe de la maison à la rue, de la rue au quartier, etc. Et la découverte de plus en plus large à travers les balades à bicyclette dans Metz et aux environs, dans les environs de Metz, quoi. Donc avec la découverte d'autres lieux, d'autres les copains en bande en vélo, etc. Quoi. Donc
avec même une association,
des statuts. On avait créé un club d'ailleurs qui avait ses règles précises. Qui fixait minutieusement ce qu'il fallait faire, les règles du jeu lors des balades cyclistes. Tout ça s'était mis par écrit, sur un aspect assez formaliste. Les enfants, dans leur jeu, ont tendance à fixer des règles, hein, c'est bien connu, à se fixer eux-mêmes des règles, des règlements. que les adultes n'ont pas forcément. Quoi.
Là, vous avez, avec vos copains, vous avez même inventé alors là, la règle, et puis là, il y avait, c'était signé, c'est la convocation.
Oui. C'est-à-dire qu'on s'envoyait des ordres de mission quoi, pour la prochaine balade en vélo. Donc on se transmettait par courrier des ordres de mission. Quoi. C'était très, très militaire. Il y avait le paquetage à emporter, tout le matériel qu'il fallait prendre, les rustines et la colle en cas de crevaison, etc. Enfin, c'était très, très minutieux. Quoi.
Et tant pis s'il pleuvait.
Bon, on avait des imperméables.
Oui. Bon, pique-niquer, c'était pas toujours très, très, très
non,
commun.
Non.
Et puis, il y a ce petit épisode-là qui fait penser à la guerre des boutons. Vous êtes intercepté avec vos copains en vélo par une bande sur le quartier du quartier voisin et tout.
Oui, c'est assez curieux. Non, c'est vite banlieue. Et on parle des dérives des banlieues avec les bandes, etc. Enfin, c'était moins violent à l'époque quand même. Mais les gosses réagissent comme les adultes qui tracent des frontières. Hein. Ils déterminent aussi leur territoire. Et quelquefois, quand on passait dans un quartier à l'autre, on était repérés. Pourtant, c'était une ville... Les quartiers étaient indistincts, en apparence seulement, parce qu'en fait, il existait des quartiers très marqués, très, très différenciés, et il y avait des bandes de gosses, quelquefois, qui faisaient la police et qui pistaient les inconnus qui s'incrustaient dans leur territoire. C'est un réflexe atavique. Hein, quand à l'âge adulte, ça donne des frontières.
Ouais. Et ce qui vous a sauvé le jour de cette équipée-là, c'est que vous étiez connu de quelqu'un connu d'eux.
Oui, c'est ça. Et ça ne nous a pas trop posé de problème. Mais les relations entre gosses étaient souvent, tout souvent agressives. Hein. C'est pas...
Ce qu'on découvre aussi dans votre ouvrage, je suis en train de penser, moi, des jeunes de 15-16 ans qui pourraient lire ça, c'est que après-guerre, et même en ville... Dans les gens qui avaient la chance d'avoir un petit bout de jardin, il y avait des poules, il y avait des lapins. Là, ça semble complètement... le maraîchage existe toujours, mais là, ça semble vraiment autre monde hein, aujourd'hui.
Ah oui, c'était une ville campagne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un pouce de terrain qui était inexploité. Et les gens avaient des poulaillers jusque dans les arrières-cours, y compris au centre-ville. Quoi. Alors, j'ai jamais su si ça datait, c'était une survivance de la guerre. Où les gens, effectivement, étaient obligés d'élever des lapins. Il y en a qui en élevaient sur leur balcon. Hein. Ou bien si c'était le fait... Bon, c'était des populations qui étaient quand même très proches encore des milieux ruraux, quoi, des gens qui venaient de la campagne. Et tout le monde, dès qu'il avait un jardin, l'exploitait, mais élevait des poules et des lapins, y compris au plein centre-ville. Quoi. Bon, ça, c'est des choses qui sont inimaginables de nos jours. Hein. Oui. Les règles d'hygiène, etc. Donc on avait des mouches en pagaille, exactement comme à la campagne. Quoi. C'était une petite campagne. Quoi.
Une petite campagne.
Oui.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, c'est peut-être un peu plus tard que les années 50, Memphis, Tennessee, Chuck Berry. Ça vous dit ?
Je pense pas écouter ça à l'époque encore, mais enfin bon.
Vous écoutiez quoi ? Sur la radio de la famille ?
J'écoutais les émissions de Radio Luxembourg, La famille du raton,
ouais.
Qui tout double. J'en parle dans le projet également. C'est des choses qui ont marqué aussi, quoi, parce qu'on se réunissait autour de la radio comme on se réunit autour de la télévision maintenant. Ouais. On faisait cercle autour de la radio, on écoutait les émissions régulièrement. Quoi.
Memphis, Tennessee, par Chuck Berry, toujours en compagnie de notre invité Raymond Hiss pour Les Roses ont menti. Aux éditions des Parèges. Avant de partir dans le Lot-et-Garonne, hein, parce que c'est une part importante de votre enfance et de votre jeunesse, je voudrais qu'on retrouve le petit Raymond qui rentre au lycée, hein, parce que là aussi, c'est des choses qu'on a complètement oubliées aujourd'hui. Rentrer au lycée en sixième, c'était pas absolument évident. Hein.
Il fallait déjà prendre le bus.
Je pense pas, c'est pas particulier. Ça, oui. Mais ça, vous décrivez tout ça.
Oui. Mais c'est assez curieux parce que des années lycée, j'ai passé 4 ans au lycée jusqu'en 3e. Mais les souvenirs les plus prégnants, c'est toujours des souvenirs indirects. C'est-à-dire que les souvenirs les plus forts qui me restent, c'est les trajets en trolley. Ce qui s'est passé au lycée, j'en évoque quelques-uns, mais enfin c'est, mais surtout le passer d'une école primaire, même de banlieue, à un grand lycée de ville, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Comment ? Un changement de monde.
Ah, un changement de monde. Bon, on est dans un labyrinthe complètement anonyme. Enfin bon, c'est... Et on n'y est pas préparé, quoi.
Avec des pions, là, dont l'un avait l'air passablement alcoolique.
Oui, oui, apparemment, oui, je me suis exactement... Je ne sais pas si c'était pas un handicapé, mais qu'on prenait pour un alcoolique. Enfin, c'était peut-être les deux, d'ailleurs.
Ouais.
Mais enfin, on a l'impression qu'on se demande où on allait chercher. Les surveillants généraux, à l'époque, c'était, ils y étaient assez... comme nous aurait dit Coluche, patibulaire, mais presque.
Ouais.
Ça a beaucoup changé. Hein. Les conseillers d'éducation, aujourd'hui, c'est autre chose. Hein, mais...
Et à cette époque où vous rentrez au lycée, il n'y a que deux lycées de garçons en Moselle.
Oui, il y a celui de Metz et celui de Thionville. C'est tout. Hein, un lycée de filles à Metz et autrement deux lycées de garçons. Quoi. Ça allait de la 6e à la terminale.
Vous passez votre bac?
Non, je ne l'ai pas passé au lycée. Hein.
Vous avez fait l'école normale.
Oui, c'est ça. J'ai quitté le lycée en fait à la fin de la 3e.
Oui, pour faire.
Et le récit s'arrête à peu près à cette époque. Oui. Hein,
vers 1900. Suivez les traces du grand-père là.
Oui, j'ai suivi les traces du grand-père. Oui.
Et vous avez enseigné ?
Pardon ?
Vous avez été
pendant quelques instit, années, pas très longtemps. Ouais. Et puis j'ai. Enfin, j'ai pas dévié. J'ai changé de travail, donc je me suis lancé dans l'informatique.
Ouais.
Donc une carrière tout à fait différente. J'étais. Comme je le dis quelquefois dans mes biographies autorisées, j'ai gardé pendant des années des troupeaux d'ordinateurs. Au rectorat de Nancy, je m'occupais de l'informatisation des lycées et des collèges. Donc, un métier.
Et c'est là où vous avez regretté qu'il y ait plus de trois lycées en Moselle pour l'informatisation.
Le système avait changé. Il y avait 300 établissements en Lorraine en établissements secondaires. Hein, donc, c'était des troupeaux d'ordinateurs. Hein,
Et dans la vie du jeune Raymond, il y a le Lot-et-Garonne.
Alors, le Lot-et-Garonne, ça constitue une part importante. Enfin, c'est les deux ou trois derniers chapitres. Alors pourquoi le Lot-et-Garonne ? Bah, c'est tout simplement quelquefois dans l'histoire de la famille, il y a l'histoire avec un grand H, certainement qui vient interférer, qui vient un peu bousculer les familles, qui donne un grand coup de balai dans la fourmilière. Et c'est comme ça que mes parents ont fait la connaissance du Lot-et-Garonne pendant la guerre. Et par une suite de circonstances familiales, je me suis retrouvé, mes grands-parents ont déménagé dans le Lot-et-Garonne. Et j'ai passé donc toutes mes vacances, de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, en gros, dans un petit village du Lot-et-Garonne, où ma tante avait épousé un agriculteur. Et là, bon, c'est certainement les plus beaux souvenirs de vacances que...
Vous y descendiez en voiture ?
Oui, on y descendait en voiture, en deux chevaux. Et on en ramenait des poulets, des melons, Bon, les poulets, c'était une denrée rare à l'époque. Hein, c'était une viande de luxe. Donc, il fallait faire vite. On partait de nuit. On tuait le poulet la veille. On le plumait dans la nuit, de façon à ce qu'il soit encore frais le lendemain matin quand on partait.
Quoi. Et vous participez à...
Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre la sensiblerie actuelle qu'ont certains vis-à-vis des abattages ou des animaux. Bon, j'ai vécu cette époque-là à la campagne. Bon, j'ai aidé ma grand-mère à égorger les poulets. Ouais. Ça ne me gênait absolument pas. J'y trouvais... Ça me laissait totalement indifférent. Enfin, ça faisait partie de la vie, quoi.
Et le Lot-et-Garonne, vous continuez à y aller ?
Disons que la famille, j'y suis retourné ensuite.
Hein,
mais bon, là, les derniers membres de ma famille ont disparu. La ferme elle-même de mon oncle a été vendue très récemment. Et bon, je n'ai plus d'attache là-bas. Et là, c'est un monde, par contre, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Metz, bon, c'est un monde qui a complètement changé. C'est-à-dire que les paysans, il n'y a plus de paysans, quoi. Il y a des agriculteurs. Le village lui-même, c'est devenu un peu un village dortoir pour la ville voisine. La composition sociologique, là aussi, a complètement changé, quoi. Mais bon. J'ai connu encore des modes. J'ai regretté de ne pas avoir un appareil photo à l'époque. J'ai connu les moissonneuses-batteuses, les faucheuses-lieuses, les charrues ou les charrettes tirées par des attelages de vaches. Bon, choses qui ont complètement disparu, qui appartiennent maintenant à l'histoire, quoi.
Donc, votre lieu de naissance en Moselle est resté beaucoup plus dans la réalité que vous avez connue que ce que vous avez connu dans Lot-et-Garonne.
Oui, architecturalement, le paysage du quartier n'a pas été bouleversé. Mais sociologiquement aussi, bon, il n'y a plus personne qui parle allemand maintenant, ces générations-là ont disparu. Ce qui constituait l'ossature du quartier, les ateliers des chemins de fer ont disparu aussi. Il y a très peu de temps. L'aspect militaire est complètement gommé maintenant avec la disparition de la base aérienne. Donc, je pense que... Bon, ça m'arrive souvent d'y aller quand même. Mais là, la composition sociologique a complètement changé, quoi.
Et ça doit vous faire drôle de revoir les maisons où vous avez habité quand vous étiez petit, parce que vos parents, quand même, ont un peu déménagé.
Oui, ben ils ont tourné d'ailleurs assez curieusement dans le. Ils ont souvent déménagé et ils ont fait un circuit dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la place Mermoz, à presque 360 degrés. C'est assez curieux. Mais j'ai eu l'occasion quand même, il y a quelques années, de visiter la maison de mes grands-parents, dont je parle assez abondamment, rue de la Prévôté, parce que le propriétaire de la maison avait lu mon bouquin, il l'avait trouvé à la bibliothèque de Montigny. Donc il m'a invité à revoir cette maison.
Sympa ça.
Oui, je ne l'avais pas vu depuis 50 ans, quoi. Donc, mais j'avais gardé un souvenir très précis de l'agencement des pièces. Bon, j'avais quand même une bonne mémoire visuelle, quoi, ouais. Je crois.
Parce que dans ces maisons, ben vous, c'est aussi une chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Et pas de chauffage central, il n'y avait pas de baignoire. Vous avez vu arriver ce progrès au fur et à mesure de votre enfance.
Oui, c'est ce que j'appelle le progrès avec un grand P, de manière ouais. un petit peu ironique. Quoi. Bon, c'est vrai que les années 50 ont été, enfin 60 aussi, mais enfin ont été quand même des années de bouleversement après la guerre, bien sûr, hein, où sont apparus ce qu'on appelait le confort, l'eau chaude, le chauffage au gaz, etc. Les réfrigérateurs, c'était des événements marquants dans la famille. Quoi. On était fiers d'avoir un frigo, d'avoir un poêle à mazout, etc. Donc,
et puis peut-être content de plus aller aux bains-douches.
Oui, aussi, oui, bien sûr, oui, parce qu'il y avait les bains-douches collectives qui étaient dans les sous-sols de l'école où j'allais comme élève rue Peupion. Quoi.
Avec une gardienne des lieux qui venait toquer à la porte.
Oui, il fallait se dépêcher de finir parce qu'elle voulait accélérer les rotations. Quoi, de bain. Tout ça, je pense, enfin, les bains-douches, ça existe encore, mais bon, je pense que ce sont toutes des choses qui ont effectivement disparu. Quoi, ce qui fait que le livre prend une certaine patine historique avec le détail, avec le délai du temps qui est passé. Quoi.
Le livre, ça s'appelle « Les roses ont menti » et c'est aux éditions des Parèges. Et Raymond, là, vous avez... Alors là, on va changer complètement de style par rapport à l'ouvrage. Là. Votre actualité dans l'immédiat, c'est les Imaginales à Épinal ce week-end.
Ce week-end, demain et après-demain. Donc jusqu'aux Imaginales, non pas avec « Les roses ont menti », bien sûr, mais avec les autres ouvrages de fantastique et de science-fiction.
C'est votre quantième participation aux Imaginales.
Oh, je ne sais plus, j'y suis allé depuis le début. Enfin, ouais. Chaque fois que j'ai un ouvrage qui sortait, donc je suis invité aux Imaginales. Quoi. Un ouvrage en relation avec littérature de l'imaginaire. Ouais. Quoi. Et autrement, donc, pour les roses en mantis, je vais faire une dédicace
le 5 juin.
Non, le 18 juin le 18 à la librairie. Juin. Je serai allé le 18 juin à la librairie Isler à Metz. Donc, librairie que tous les Messins connaissent, le samedi après-midi. Je serai également aux Estivales de Metz à la Porte des Allemands le 5 juin, qui est un salon de. C'est le salon des auteurs lorrains, en fait, qui est organisé le 5 juin avec Les Roses aux Mantilles et quelques autres. Et je serai également le 25 et le 26 juin à Boulay près de Metz.
Un salon aussi.
Un salon qui est organisé aussi par la librairie Isler-Even et la ville de Boulay.
Avec les roses, enfin avec tous vos ouvrages, là
Oui, certains d'entre eux, pas tous, mais entre autres, les roses ont menti, quoi. Puisque là, c'est polyvalent. Chez Evan, ce sera uniquement les roses. C'est une séance de dédicace.
Et puis, on en reparlera à la rentrée avec le livre sur la place et puis un café littéraire en novembre 2016. Vous avez une actualité bien chargée, donc, et toujours un ouvrage en cours.
Oui, toujours. J'ai encore deux ouvrages, deux romans qui sont en lecture. Et puis, je m'occupe aussi donc, du prix Imaginaria. J'en ai déjà parlé, l'occasion d'en parler à la radio. C'est un prix qu'on a fondé avec deux autres personnes et qui consiste à faire des appels à textes, à des manuscrits, dans les domaines, cette fois-ci, de l'imaginaire, science-fiction, fantastique, fantasy. Et le gagnant de ce prix, le manuscrit sélectionné, a pour objet peut être édité, donc en liaison avec un partenaire, avec un éditeur, qui sont maintenant les éditions Nerea, que les auditeurs connaissent bien
ouais.
Rémi Debord. Donc nous sommes en train de sélectionner l'ouvrage pour le prix 2016. Et je signale donc déjà que dès à présent, le prix 2017 est ouvert jusqu'à fin février 2017. Donc si vous êtes dans cette branche, si vous connaissez des gens qui écrivent des romans, des recueils de nouvelles appartenant à ces domaines, vous pouvez envoyer votre tapuscrit et vous référer à notre site internet, donc www.lacourdelimaginaire.com. La Cour de l'imaginaire en un seul mot, où vous trouverez le règlement du prix et tous les détails concernant cette entreprise.
Raymond, merci pour votre participation à ce marque-page. On vous retrouve à la rentrée. D'ici là, bon, je vous souhaite de bonnes vacances.
Oui, je vais enfin prendre des vacances.
On va avoir des vacances. Et je rappelle donc aux éditions des Parèges, Les Roses ont menti. À une autre fois sur cette antenne. Au revoir.
Au revoir.